Bonjour Tiffaine, aujourd'hui dans la compagnie, dernier épisode de notre série sur l'artiste franco-américaine Louise Bourgeois.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. La vie de Louise Bourgeois est celle d'une femme libre qui a traversé presque tout le XXe siècle. Née en 1911 et disparue en 2010, elle a connu les deux guerres mondiales, fait des études, voyagé. Elle a quitté son pays, a été mère de trois enfants, a épousé un célèbre historien de l'art et est devenue elle-même une grande artiste, une icône, une star. Un peu, il faut bien le dire, contre vents et marées, comme nous l'a raconté lundi sa biographe Marie-Laure Bernadac. Mardi, nous avons parlé de quelques œuvres de Louise Bourgeois en nous demandant l'effet qu'elle produisait sur le regardeur. Nous étions pour ce faire en compagnie de Nadine Satia. Enfin, hier, c'est un témoignage en plus d'une analyse de l'œuvre que nous a livré Jean Frémont, le directeur de la galerie Le Long et auteur de deux livres sur Louise Bourgeois, qu'il a rencontré d'ailleurs souvent à New York. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en seconde partie, nous parlerons de Louise Bourgeois et la psychanalyse avec Evelyne Grossman. Mais d'abord, nous sommes avec Tiffaine Samoyo, autrice du livre « La main négative » aux éditions Argol, où il est question de son enfance et de celle de l'artiste, toutes deux marquées par le milieu du tissage. Bienvenue à tous dans la compagnie des œuvres.
C'est ça. La femme de l'anglo est une anglotte. La femme de l'amigo est une amigotte. Avec son pote, elle dansote. La chamotte est la femme du chameau. La crapote est la femelle du crapaud. Ouhou. Il bouquine, elle bouquinote. Elle souffrote.
C'est ça.
Pour son pote, elle est idiote. Il joue à la bourse, et elle boursicote. Il cuisine, et puis elle popote.
Petit poème de Louise Bourgeois, mise en musique. Bonjour Tiffaine Samoyo.
Bonjour Mathieu.
Vous saviez que la chamotte était la femme du chameau?
Bien sûr.
Ouais. C'est vrai qu'une Louise Bourgeois assez anxieuse, presque suicidaire parfois, on va en parler évidemment aujourd'hui quand on abordera notamment la question de la psychanalyse, mais il y a aussi cette Louise Bourgeois qu'on entend et qui est fantastiquement drôle, fantastiquement gaie. C'est votre Louise Bourgeois à vous aussi?
Non, je la trouve pas si gaie, mais en revanche, je la trouve parfois plus légère que ce qu'on indique et que ce qu'elle-même donne à voir d'elle. C'est-à-dire qu'on est parfois un peu bloqué par son caractère, son côté hableur, son côté très explicite aussi dans sa manière de présenter sa vie, de présenter ses œuvres.
Trop explicite.
Et moi, je me suis intéressée à une part peut-être plus modeste, parce que c'est quelqu'un qui a une relation aux arts modestes très forte, hein, parce que voilà, moi j'ai plutôt parlé de la tapisserie dans ce livre, de son rapport à la tapisserie, mais parmi les œuvres que je préfère d'elle, ce sont les broderies. Tous ces livres en tissu ou toutes les broderies, les phrases qu'elle brode sur des tissus récupérés ou dont on a l'impression qu'ils sont récupérés. Et cet art du torchon, du tissu, de la récupération, du rapiessage, c'est sa relation à l'art modeste. Par exemple, dans ses cellules, bon, il y a énormément d'objets très 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 à contenu explicite, comme on dirait, qui nous conduisent vite vers l'interprétation. Et puis il y a des petites choses qui résistent. à l'interprétation. Et c'est ce qui m'a intéressée, en particulier les petits morceaux de tapisserie qui traînent comme ça, ça et là, et qui sont ni véritablement figuratifs, qui sont comme des collages de l'enfance, mais qui relèvent pour moi d'une certaine modestie de l'art.
Donc vous n'aimez pas tout chez Louise Bourgeois ?
Si, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de ses œuvres, et j'adore les araignées par exemple, parce que les araignées sont des pièces monumentales, mais qui créent des familiarités très grandes avec nous. Bon, il y a pour plusieurs raisons, parce que beaucoup d'entre elles s'appellent maman, et puis aussi parce que on les retrouve un peu aux quatre coins du monde, elles nous font signe à des endroits différents du monde avec leurs petites différences. Donc ce sont des œuvres que je trouve fantastiques. Mais bon, dans ce livre, c'est ça qui m'a intéressée. Et je trouve peut-être qu'on ne le met pas suffisamment en valeur, cette relation aussi aux arts modestes, qui sont des arts féminins aussi, ou des artisanats féminins. Et...
Alors, les auditeurs de la Compagnie des œuvres vous connaissent bien, hein, Tiphaine Samoyeau. Vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler de différents auteurs, comme de Roland Barthes, par exemple, à qui vous avez consacré une biographie. Vous vous intéressez donc aussi à Louise Bourgeois. Vous avez écrit ce petit livre à partir de Louise Bourgeois qui s'appelle « La main négative ». Et je le disais en introduction, c'est un livre qui est personnel, un livre dans lequel vous vous livrez un petit peu. Vous êtes passé par la figure d'une plasticienne pour... vous raconter, plutôt que par la figure d'une écrivaine, par exemple.
Oui, alors au départ, c'est un peu la magie de la commande, c'est-à-dire que c'est une suggestion qui m'avait été faite par Catherine Floïc, qui dirigeait les éditions Argol. Et c'est là que j'ai découvert avec une grande surprise que ce rapport de l'enfance de Louise Bourgeois, ce rapport biographique de Louise Bourgeois à la restauration des tapisseries. Parce que je connaissais son œuvre, mais je connaissais pas véritablement sa vie. En tout cas, j'avais manqué cet épisode, pourtant majeur.
Vous étiez déjà ému par les petits détails dont vous nous parliez
absolument.
À l'instant, et
oui.
Les petites broderies.
Mais c'est en me plongeant dans des textes biographiques sur elle que j'ai reconnu ce point commun biographique. Puisque effectivement, moi, j'ai eu des parents conservateurs de musées qui restauraient des tapisseries, des tentures murales. Ensuite, mon père, il a été administrateur des Gobelins, donc j'ai bien connu les ateliers de tapisserie, de tapis. Et voilà, je le dis à un moment qu'on a eu des enfances textiles. Alors c'est un peu, c'est à la fois une métaphore et puis quelque chose de très littéral. C'est-à-dire qu'on était environné par les fils, les tissus, les couleurs, les dessins aussi, parce que la tapisserie ou le tapis, c'est d'abord un dessin, et puis toute cette technique du corps que réclame la fabrication si lente d'une tapisserie muséale ou artistique.
Louise Bourgeois et moi, écrivez-vous, qui n'étions pas sœurs, avons pu enfant nous cacher derrière des tentures.
Oui, parce que ce qui m'intéresse aussi, bon, c'est la question du fil et de toute la métaphore qu'on peut faire très usée, hein, mais en fait qui finalement marche quand même très bien, parce que la tapisserie, l'envers de la tapisserie, c'est quelque chose d'incroyable.
C'est-à-dire que là, c'est plus beau que l'endroit, l'envers de la tapisserie.
C'est pas plus beau, mais alors c'est extrêmement parlant, c'est-à-dire que tout ce qu'on veut cacher est exposé. On voit moins ça dans l'envers d'une toile, dans l'envers d'une tapisserie. On a tous les nœuds, tous les fils qui restent, qui pendouillent. Il y a quelque chose de très très violent dans l'envers d'une tapisserie, parce que on voit une forme de laideur du monde que le lisse de la tapisserie de l'autre côté cherche à cacher ou à dissimuler. Et c'est très fort. Et en même temps, ce qui m'intéresse dans la tapisserie, c'est que son statut est très indéterminé. Même autrefois, c'est toujours quelque chose qui permet de cacher quelque chose. On utilise la tapisserie pour cacher un mur ou pour réchauffer un mur trop froid. Enfin, il y a quelque chose. C'est un art fonctionnel et c'est très peu considéré comme un art par nous. C'est assez rare. Bon, il y a quelques amateurs et amatrices, mais c'est quand même assez rare de se dire tiens, aujourd'hui, je vais aller visiter une exposition de tapisserie. Bon, même s'il y a des commandes, il y a des tapisseries. Il y a des tapisseries magnifiques, hein. Il y a des cartons de tapisserie qui sont très beaux, et les Gobelins ont fait travailler des artistes impressionnants. Il y en a qui sont très forts, hein. Alechinski, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait des cartons de tapisserie qui donnent des résultats splendides. Mais quand même, on a du mal à considérer que la tapisserie est véritablement un art. C'est pour ça que je parlais d'art modeste. C'est entre l'artisanat et l'art. C'est fonctionnel. Ça reste fonctionnel et donc ça résiste un tout petit peu à la définition de l'art.
Mais Louise Bourgeois, c'est une artiste à part entière qui a grandi dans ce milieu de l'artisanat d'art.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle en a retiré, selon vous, de cette enfance qui est à la frontière du commerce et de l'art ?
Déjà, je pense le sens de ce que c'est qu'une entreprise d'artisanat, parce que bon, sa mère faisait travailler quand même, je sais pas, une vingtaine ou 25 ouvrières. C'est toute une ruche, hein, un atelier de tapisserie, parce que c'est immense. Souvent, on travaille à plusieurs sur une tapisserie. C'est
et
lourd.
On y passe beaucoup de temps.
C'est ça. C'est lourd comme artisanat. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça dans son coin. Et puis, c'est du temps. C'est même un temps considérable. Mmh. Moi, je le dis aussi dans le livre, il y a quelque chose d'extrêmement paradoxal et anachronique à une époque où on fait des kilomètres de tapis Saint-Maclou et autres, de se dire que des ouvrières ou des ouvriers vont passer parfois 5 ans, 10 ans à faire une seule tapisserie.
Donc c'est un rythme de vie qui a... peut-être un peu disparu d'ailleurs, enfin qui tend un peu à disparaître.
Non, mais il y a quand même encore beaucoup d'ateliers de tapisserie. Il y en a, ben, rien qu'en France, cet artisanat d'art, il emploie énormément d'artisans au Gobelin. Mais on sait, il faut aussi savoir qu'il y a des ateliers à Beauvais, il y a aussi des ateliers à Lodève, où c'est l'artisanat des tapis berbères qui se prolonge. Il y en a quand même beaucoup, en fait, plus qu'on ne croit.
Et puis c'est l'anti-division du travail, l'artisanat d'art, la tapisserie, c'est de prendre à son compte l'ensemble d'un travail, l'ensemble d'une œuvre. Donc ça aussi, ça marque quand même une autre manière de faire.
Oui, c'est collectif, c'est presque anonyme, hein, même si je le signale, hein, on met le nom, hein, de la personne qui a tissé aussi dans un coin de la tapisserie. Il y a le nom de la tisseuse ou du tisseur, du tisserand ou de la tisserande. Mais quand même, la personne qui est valorisée, c'est l'artiste qui a fait le carton.
My mother's mother, she was hard working, she worked like a slave. And she was not unhappy. She was a tapestry woman in Aubusson. My mother was also a tapestry woman. My mother, who was a perfectionist, repaired her tapestry with fast colors, vegetable colors that she dyed herself. Mais ma mère, qui était une femme d'opinion politique avancée, c'est-à-dire qu'elle était très à gauche, elle m'a dit un jour, tu ne toucheras jamais l'aiguille. Ça veut dire que tu ne seras jamais une ouvrière. Je ne veux jamais que ma fille soit une ouvrière. Ça veut dire que les ouvrières étaient exploitées. Alors je n'ai jamais touché l'aiguille. Bah, c'est comme ça. Alors j'ai touché le fusain et les dessins. Elle m'a encouragée à aller au lycée et à devenir et à avoir une éducation. Mon père était contre l'éducation des filles, comme Balzac, comme tous ces gens. Il était contre l'éducation des filles. Et ma mère disait, ne perds pas ton temps à faire de la tapisserie, c'est idiot. Ne touche jamais l'aiguille. Va au lycée, va chercher une éducation. Elle était une féministe. C'est tout le côté féministe.
Compagnie des œuvres sur France Culture. Alors passer de l'artisanat d'art au travail d'artiste, c'est ne pas toucher l'aiguille justement. C'est aussi une histoire d'émancipation que fait Louise Bourgeois. Évidemment, elle garde, comme vous le disiez, Tiphaine Samoyau, dans ses œuvres, la mémoire du tissage. Il y a beaucoup d'œuvres qui font référence, même parfois lointainement. Mais elle est devenue artiste, Louise Bourgeois.
Oui, elle est devenue artiste et plus elle a avancé dans sa vie, plus elle s'est mise à toucher l'aiguille, mais en artiste. Parce que les œuvres qui utilisent la tapisserie, il y en a assez tôt. Enfin, c'est surtout les œuvres tardives à partir des années 90. Et vous posiez la question lundi de savoir s'il y avait un style tardif de Louise Bourgeois. Moi, il me semble que oui, et qu'il est caractérisé aussi par ça, parce que là, elle fait des têtes en tapisserie, elle les coud elle-même. Et toutes ces broderies auxquelles je fais allusion, ce sont aussi des œuvres, des travaux d'aiguille. Mais elle le fait avec un nom. C'est-à-dire que c'est une fois qu'elle s'est fait un nom en tant qu'artiste, qu'elle peut de nouveau retrouver, bon, à mon sens, cette possibilité de toucher l'aiguille et de renverser finalement l'injonction maternelle.
Donc c'est l'histoire aussi des femmes dans l'art du XXe siècle que ça raconte.
Enfin pour moi oui, je dis pas que c'est absolument ce qu'elle a voulu dire, mais pour une femme qui envisage une œuvre comme celle-là, on l'envisage aussi comme une œuvre de femme qui s'impose, qui nous aide à nous imposer. Enfin il y a une force émancipatrice pour beaucoup d'entre nous. Bon je pense que cette force émancipatrice elle peut toucher des hommes aussi. Bien évidemment, je le limite pas, je pense pas que ça soit genré, mais disons que quand on se confronte, parce que je crois que comprendre l'art c'est aussi apprendre à dire je en le regardant, et bien quand on se confronte à une œuvre comme celle-là, c'est assez libérateur, même si il y a aussi des choses qui nous enferment dans son œuvre, hein, parce que elle nous enjoint à l'interprétation, à nous projeter dans rien que les titres qui sont souvent très
c'est
très
trop fermé
explicites.
Pour vous
parfois mais non la force émancipatrice elle est plus grande que la fermeture mais il y a des moments où elle me réenferme mais c'est ce qu'elle veut puisque ces cellules elle nous rappelle que l'enfance peut être une prison que le bonheur aussi que donc voilà ça fait partie de son œuvre je pense que si on était juste libéré par cette œuvre une part de son sens disparaîtrait C'est aussi une œuvre qui est là pour nous enserrer pour nous mettre dans ces fils pour nous voilà que ce soit les fils de la tapisserie, que ce soit les treillis des cellules, voilà, il y a toujours le tissage, les pattes de l'araignée, à la fois c'est fascinant et puis en même temps c'est très angoissant.
Oui, parce que l'araignée c'est quand même le petit animal qui prend sa proie et qui l'enserre justement dans une sorte de cocon, enfin qui l'empêche de bouger, non ?
Oui, complètement. Et puis c'est quand même un animal angoissant. Enfin, on est nombreux à partager la peur des araignées. Et celle-là est tellement énorme. Et elle m'a rappelé, je le cite dans le livre, une scène qui m'avait vraiment complètement terrifiée. Dans des lectures d'enfance, une scène dans Colette où elle raconte qu'un jour elle monte dans une pièce, dans une maison, et qu'elle voit une araignée. Et elle dit grande comme une maison. Et c'est vraiment une des scènes d'horreur les plus terrifiantes que j'ai lues dans mon enfance.
Elle avait un catalogue des araignées qui pourrait être un petit peu un catalogue des mères. Le livre de ma mère, je crois, l'appelait comme ça, Jean Frémont. Parce que en effet, dans l'étoile d'araignée, il y a aussi quelque chose de rassurant. Enfin, en tout cas pour elle, est-ce que vous pouvez le voir même lointainement, ce côté rassurant ?
Oui, quand on est sous l'araignée, quand on le ressent très fortement, parce qu'elle en fait aussi un ventre maternel. Donc on le ressent. On ressent le côté utérin de l'araignée dans la sculpture. Mais je l'ai jamais ressenti devant aucune image d'araignée et devant aucune araignée réelle. Donc, le fait qu'elle appelle cette araignée maman, pour moi, c'est aussi elle, c'est aussi un autoportrait. Ça n'est pas simplement un portrait de la mère. C'est un portrait d'elle comme mère. C'est un portrait de l'artiste comme mère aussi.
Pourquoi ?
Parce que elle nous emmène quand même dans cet endroit. On y est.
De Louise Bourgeois dans la Compagnie des Heures avec aujourd'hui Tiphaine Samoyo. Vous avez dans votre livre Tiphaine Samoyo évoqué une question que vous vous posez aussi ou que vous vous posiez peut-être davantage enfant. qui est cette question, qu'est-ce que c'est qu'être une fille ? Et Louise Bourgeois aussi a pu se poser cette question, est-ce que ça libère ou est-ce que ça enferme d'être une fille ? Vous avez réfléchi en lien avec l'œuvre de Louise Bourgeois à ces questions-là ?
Oui, j'y réfléchis, j'y ai pas réfléchi enfant. Au contraire, parce que enfant,
je le
ressentais,
chose.
Mais je n'y réfléchissais pas, et encore moins peut-être dans mes apprentissages intellectuels et savants, parce que là, on essayait de nous persuader qu'il n'y avait pas de différence au nom d'une prétendue universalité du sujet au choix philosophique, psychique, etc., auquel j'ai voulu croire, enfin un mythe auquel j'ai voulu croire pendant un certain temps, et après je me suis rendu compte que c'était un mythe. Que c'était une illusion. Et donc j'ai eu besoin d'œuvres comme celle-là, ou de lectures féministes, ou d'œuvres féminines, pour essayer de comprendre ce que ça voulait dire, et de quelle manière on héritait aussi en tant que fille. On n'hérite pas de la même manière. D'abord, on hérite beaucoup moins. Je ne parle pas des héritages matériels, mais des héritages symboliques.
Ce qui peut
mais d'une certaine
aussi,
manière, ça libère aussi. Parce que, voilà, il y a quand même moins de passé derrière nous. Ou c'est un passé qu'il faut essayer d'exhumer derrière des couches d'enfouissement et d'occultation. Et c'est pour ça que cette œuvre, bien qu'elle soit si puissante, si forte et si expressive, m'intéresse pour ses côtés vraiment plus obscurs. Et ce qu'elle révèle aussi de ce qu'a été tout ce savoir des femmes qui relevait de quelque chose qui est de l'artisanat, de la main ouvrière, mais qui aussi avait des côtés artistiques qu'on a jamais véritablement mis en évidence. Et donc c'était aussi une manière de réhabiliter, pas de réhabiliter parce qu'elle n'a pas besoin d'être réhabilitée, mais enfin de mettre en évidence la figure de ma grand-mère qui était une couturière de village et qui faisait de la magie avec n'importe quel bout de tissu.
Vous racontez aussi quand votre père vous avait emmené voir une canute qui tissait des rideaux, je crois. Est-ce que vous pouvez nous redire
effectivement,
cette anecdote ?
Ça, c'était une. Ça fait partie de ce que j'appelle la part textile de mon enfance. C'est qu'effectivement, quand j'étais enfant, on était allé chez les canuts parce que ils tissaient depuis plus de 20 ans toute la chambre de la reine du château de Fontainebleau.
Depuis plus de 20 ans.
Oui, parce que les tentures s'étaient fanées avec le temps, donc comme les tapisseries, hein, la fannerie de ces tentures font que toutes les couleurs se confondent. Et c'est ça, voir des tapisseries anciennes, c'est voir quelque chose de d'usé et surtout de terne. Et elle a joué de ça aussi, hein, de ce terne. On voit une usure, on voit une moisissure, on voit la mort, hein, dans l'artisanat, beaucoup plus que dans l'art, qu'on restaure beaucoup plus facilement. Et donc, mes parents étaient conservateurs du château de Fontainebleau, ils faisaient tisser toute la tenture de la pièce. Dans les couleurs qu'on pensait être les couleurs d'origine. Et ça a pris 20 ans.
Mmh. Ça vous a beaucoup impressionné.
Oui, puis surtout de voir ces ateliers de tissage, hein, jacquard, etc., qui fonctionnaient encore comme au XIXe siècle.
Maintenant, vous avez passé une grande période sans coudre, et maintenant vous reprenez l'aiguille depuis quelques années là, pour faire des sculptures.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est le retour du passé dont parle Freud. Le passé revient toujours. Que l'on le veuille ou pas, le passé revient toujours.
Et ça, c'est quelque chose que vous cultivez vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin...
Oui, je le cultive en cultivant les mémoires, mes memories.
On a même l'impression, enfin, que des événements de votre enfance, vous les...
Je refuse de les oublier.
Oui. Mm-hmm. Et vous les décortiquez, vous c'est les
ça.
Travaillez...
C'est vous... ça. Je les connais de mieux en mieux. Je croyais qu'il y avait des choses que j'avais oubliées. Et puis tout d'un coup, je constate qu'ils étaient là. On n'avait qu'à ouvrir la page et c'était là.
Thank you. Alors le passé revient quand Louise Bourgeois se remet à travailler l'aiguille. Vous avez eu comme elle une enfance que vous qualifiez un peu d'anachronique. Donc le temps est très important dans votre livre, dans votre rapport à la tapisserie. Est-ce que votre passé revient aussi quand vous regardez les œuvres de Louise Bourgeois d'une manière ou d'une autre ?
Oui, c'est certain. Y a des choses qui me touchent personnellement. Je trouve pas que ça soit complètement dissociable de la force émancipatrice de son œuvre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire révolution. On peut le faire en faisant des choses, en faisant table rase du passé, en inventant quelque chose d'absolument neuf, ce qu'elle fait. Mais la révolution, c'est aussi ce qui fait retour en permanence. C'est ce qui se passe aussi dans son œuvre. Et elle active, je pense, ces deux possibilités de la révolution.
Donc on doit toujours être lié à son passé d'une certaine manière.
Pour aller de l'avant, oui.
Vous dites que vos souvenirs sont ceux de quelqu'un de plus âgé que vous n'êtes.
Oui, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressée, c'est qu'elle était née en 1911, donc à peu près la génération de ma grand-mère, et que j'arrivais à concilier nos enfances. Et c'est cette contemporanéité de femmes non contemporaines que j'ai voulu évoquer dans ce livre.
Vous évoquez aussi beaucoup les mains. D'abord par le titre, La main négative. Alors qu'est-ce que c'est qu'une main négative ?
Ben, les mains négatives, le titre fait référence au titre de Duras, mais plus explicitement à ce qu'on appelle les mains négatives dans les grottes pariétales, qui sont les empreintes de mains sur le pigment de la pierre. Et j'avais lu, c'était un peu le point de départ du livre aussi, on avait pu identifier que parmi ces mains, il y avait des mains d'hommes et des mains de femmes. Et on l'avait identifié pas simplement à la taille des mains, mais à une certaine disposition du rapport entre l'index et le majeur. Et l'idée que les femmes avaient pu peindre les grottes et même Lascaux, même si c'est pas du tout l'hypothèse qui était faite par la science, hein, mais moi c'est ma fiction théorique, l'idée que c'était des femmes qui avaient pu peindre ces animaux était le point de départ aussi de mon travail, parce que c'est aussi un art anonyme, anonymisé et absolument magnifique. Et j'entends par main négative tout ce travail des mains anonymes et modestes.
Et quelque chose aussi qui renvoie, là pour le coup, au passé très très lointain, dans l'exposition de l'été dernier au Centre Pompidou, qui s'appelait « Préhistoire, une énigme moderne », il y avait justement des œuvres de Louise Bourgeois. Est-ce qu'il y a un rapport comme ça aux arts premiers ? On sait que son mari, Robert Goldwater, s'intéressait beaucoup justement aux arts premiers et à ce qu'ils avaient inspiré dans la peinture moderne. Qu'est-ce que vous en pensez, Tiphaine Samoyo ?
Oui, alors je trouve que alors pour le coup c'est une des très grandes forces de son œuvre, c'est de faire émerger ces figures qui sont à la fois ancestrales et surtout en chacun de nous, mais très 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 enfouies et très lointaines, de manière non littérale et non imitative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté je vais imiter de l'art africain, de l'art dogon. Elle les fait surgir comme si elles étaient là la première fois chez elle, et c'est pas une première fois qu'on irait chercher quelque part, c'est une première fois à chaque fois la première fois.
Et vos mains, alors, vous en parlez aussi. Vous parlez des mains de Louise Bourgeois, qui ont sans doute été modelées par son travail de sculptrice. Et vous parlez aussi de vos mains. Je ne sais pas si elles ont été modelées par votre travail d'intellectuel et d'écrivaine.
Oui, donc j'ai tout un passage sur le fait que j'écris pour m'occuper les mains. Mais effectivement, je remarquais que mes mains, qu'on ne peut pas voir à la radio, donc tant mieux, plutôt des mains travailleuses, manuelles, enfin pas des mains fines en tout cas.
Des mains d'artisan d'art.
C'est pas des mains dont on dit sont des mains de pianiste, ou même si pour être pianiste, il faut des mains solides aussi en fait. Donc plutôt des mains en effet d'ouvrières que de... Voilà. Pourtant, je suis pas très manuelle et que tous ces savoirs-là, on ne me les a pas transmis. Enfin, je ne me les suis pas appropriés.
Mais dans le travail au quotidien, vous pouvez vous identifier au travail d'une sculptrice quand vous écrivez. Est-ce que il y a quelque chose de similaire ?
Oui. Je pense que l'écriture est un travail manuel aussi. Et d'ailleurs, on a des crampes aux mains quand on écrit beaucoup. On a besoin de se détendre les mains, de se dégourdir les mains. Il y a aussi une part de manuel, disons. dans le fait de taper, dans le rapport aussi très concret aux mots qui sortent des mains.
Mais heureusement, on peut parler de temps en temps. vous trouvez que vous parlez trop parfois. Vous l'avez dit dans votre livre. Ça tombe bien parce que c'est la fin de la séquence qui vous est impartie, Tiffaine Samoyo. Merci d'être venue nous parler donc aujourd'hui de Louise Bourgeois, artiste qui a donc inspiré l'un de vos livres, La main négative, publié aux éditions Argol. En seconde partie, nous retrouverons Evelyne Grossman qui, dans son dernier livre, Éloge de l'hypersensible chez minuit, consacre un texte à Louise Bourgeois intitulé Louise Bourgeois ou comment en découdre. On est toujours dans le tissage et dans l'aiguille. Tout de suite, un autre regard sur l'artiste franco-américaine avec la chronique de Stéphanie Genant.
La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Stéphanie Genant, professeure de littérature française du 18e à l'Université de Bourgogne. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Mathieu.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes retombée sur un des livres d'écrits et d'entretiens de Louise Bourgeois paru chez Daniel Lelon en 2000 et qui s'appelle « Destruction du père, reconstruction du père ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce livre ?
Alors oui, j'étais curieuse d'entendre et de lire Louise Bourgeois. En réalité, on l'entend plus qu'on ne la lit dans ce livre, parce que c'est un recueil d'entretiens. Et moi, je voulais justement découvrir un peu son envers de la tapisserie à elle. Et le titre aussi m'avait attirée, quoi. Un livre, Destruction du père, reconstruction du père. Et à la lecture, on est fasciné aussi par l'analyse qu'elle donne de cette œuvre qu'elle a composée en 1974, qui s'intitule en anglais Destruction du père. Et là encore, on est saisi par la crudité du tabou qu'elle explicite en disant, voilà, on a tous rêvé un jour de tuer son père, et moi aussi j'en ai rêvé, et donc on a rêvé, mon frère, ma sœur et moi, qu'on était tous à table, et on l'a mis sur la table, on l'a écartelé, et on l'a bouffé, et fini, nous l'avons mangé, et c'était fini, quoi. Et cette manière d'expliciter la pulsion qu'on peut avoir dans ce texte est tout à fait saisissante, plus autant que dans son œuvre. Mais il y a cette lucidité dans ce livre qui est assez marquante.
Alors, qu'est-ce qui vous a frappé en particulier dans ce livre-là, Stéphanie Genant, pour aller encore plus loin que ce que vous venez de nous dire ?
Le cheminement aussi de Louise Bourgeois, ça a été dit cette semaine au cours de l'émission, puisque c'est des entretiens qui traversent toute sa longue vie. On la voit au début de sa carrière assez réticente à expliciter les choses. Vraiment, pour elle, expliquer le sens d'une œuvre, c'est tout à fait superflu, etc.
Et puis, même temps, elle est explicite, comme nous le disait Tiffaine Samoyo, oui, dans un certain nombre de ses œuvres.
Oui, mais c'est comme si elle le refusait. Elle refusait de le voir longtemps. Et puis dans les années 80, donc assez tard quand même, alors qu'elle a quand même 70 ans, là, les choses se verbalisent beaucoup plus. Et c'est là qu'elle dit cette phrase, j'ai eu le privilège, ce fut d'accéder à l'inconscient. Cette phrase qui montre que c'est une autre explicitation de sa part. Et on voit ce chemin vers le consentement au caractère très personnel, très intime et pour le coup très inconscient de son œuvre, alors qu'au départ il est sans doute là, mais elle refuse de le voir. C'est ça aussi que le livre retrace, cette explicitation progressive.
Et c'est ça qui vous fascine le plus ?
Ben, c'est aussi c'est ça, et puis c'est aussi la clairvoyance de Louise Bourgeois, parce que lorsqu'on voit ses œuvres, on est tous saisis, ça a été dit cette semaine, il y a une force de projection irrésistible dans ses œuvres. Toutes nous saisissent toujours, et elle explicite pourquoi. Elle dit qu'il y a quelque chose de négatif au sens vraiment psychanalytique, quelque chose de violent qui a toujours motivé sa création. Ça aussi, j'ai trouvé ça fascinant. Elle a toujours écrit pour surmonter une douleur, et sa vie n'a été à la lire que douleur, angoisse, mal du pays. C'est intéressant aussi que cette grande artiste ait passé toute sa carrière à l'étranger, s'exprime aussi dans une langue pour moitié étrangère. Ses œuvres sont aussi bien intitulées en anglais qu'en français, donc c'est intéressant qu'il ait fallu cette étrangeté pour arriver à créer. Une douleur aussi du féminin, elle le dit, elle aurait voulu être un garçon, ou ses parents, son père aurait voulu être un garçon. Ses premières lettres qu'on voit dans le recueil d'entretien sont signées...
Qu'elle soit d'un garçon.
Oui, elle signe « Ton Louison », ses premières lettres à son père. C'est ensuite très difficile, Tiffaine vient de le rappeler, pour une femme d'être artiste dans ces années-là. Donc il y a toute une part pour elle un peu complexe d'être une femme, et en même temps, elle en fait quelque chose de positif. Elle dit, il faut toujours, c'est une grande phrase qui m'a marquée, faire du passif une activité. Et donc cette douleur-là, elle en fait vraiment, elle écrit toujours pour surmonter tout ça. Elle crée.
Elle écrit aussi, hein, parce que c'est vrai que ses carnets sont vraiment très très beaux. Alors on parlera dans la seconde partie de cette œuvre Destruction du Père, Stéphanie Genant. Comme vous êtes l'autrice d'une biographie sur Sade, à chaque fois que vous venez, j'ai envie de vous poser une question en rapport avec Sade. Est-ce qu'on peut faire un lien quelconque entre la perversion de Sade et puis l'œuvre de Louise Bourgeois?
Alors, dans ce cas-là, oui, bien sûr. D'ailleurs, Louise Bourgeois dit à un moment donné, il y a du sadomasochisme dans ma création et dans mon rapport à la création en général. Elle dit, par exemple, ça m'a beaucoup intéressée, et j'aime la sculpture parce que j'aime travailler ce qui me résiste, ce qui défie. Il faut un matériau dur qu'il faut arriver à tailler parce qu'au départ, il n'est pas... il ne se laisse pas faire. Alors cette résistance du minéral, elle structure aussi Sad, mais elle met en lumière aussi une perversion universelle. Hein. Sad, vous savez ce que j'en pense, il n'est pas plus pervers que nous. Et ce qui met en lumière 200 ans avant ce que Louise Bourgeois aussi nous donne à voir dans son œuvre, c'est que nous avons tous des pulsions complexes, ce qui fait qu'on veut tuer ce qu'on désire, inconsciemment bien sûr, hein, sauf qu'elle, enfin, on est préservé de nos passages à l'acte quand on le donne à voir.
Merci beaucoup, Stéphanie Genant. On vous retrouve à ce micro dans quelques semaines. À très bientôt. Écoutez la compagnie des œuvres et vous êtes bien sur France Culture. Nous terminons notre série consacrée à l'artiste Louise Bourgeois avec Evelyne Grossman, professeure à l'Université Paris Diderot, spécialiste de théorie littéraire, également éditrice chez Gallimard des œuvres d'Antonin Artaud. Et nous lui devons un texte sur Louise Bourgeois qui figure dans son essai Éloge de l'hypersensible, publié chez Minuit en 2017. Et puis dans un autre, publié en 2011, c'était un collectif, Louise Bourgeois, Three Horizontals, aux éditions OFRIS, Institut National d'Histoire de l'Art, avec elle nous allons donc revenir sur la question centrale de la psychanalyse dans le travail de l'artiste.
Ma lutte contre l'anxiété a duré toute ma vie, mais c'était plus ou moins pénible, c'était plus ou moins paisible et pénible. Mon œuvre, ça a été mon moyen de survie. C'est mon œuvre qui m'a évité le suicide. C'est mon œuvre qui m'a permis de me réveiller tous les matins et de me mettre à travailler. Par conséquent, toute la totalité de mon œuvre a été thérapeutique. C'est ce que les gens ne comprennent pas du tout. La psychanalyse est parfaite. C'est absolument parfait, except que ça marche pas. C'est un effort énorme et c'est un effort bienfaisant. La psychanalyse ne fait de mal à personne. Il y a des gens qui ont dit que lorsque des artistes sont psychanalysés, c'est pas vrai. C'est absolument le contraire. Ça ouvre toute une vision des choses, mais ce n'est pas assez profond.
Bonjour Evelyne Grossman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce que nous dit Louise Bourgeois dans cette archive, est-ce que c'est que l'art, au fond, c'est une psychanalyse, mais à la puissance et à la profondeur démultipliée ?
Oui, sans doute, sans doute. Encore que, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais quand on écoute Louise Bourgeois, c'est toujours un peu décourageant, je trouve. Elle débite des banalités.
Ah ben,
volontairement.
Elle le fait quand même tellement bien, avec une...
Oui, avec une énergie, avec une autorité, et on a envie de dire oui, et alors? Enfin, elle a une espèce de mode d'emploi de son œuvre qu'elle nous livre et qui ne nous aide pas tellement, je trouve. Et ce qu'elle dit sur la psychanalyse, c'est un peu du même ordre. C'est quand même une assez grande simplification.
Donc c'est voilà. Un discours finalement qu'elle aurait rajouté de manière un petit peu collée.
C'est un discours protecteur, je trouve. Elle nous donne les clés. Voilà, je vous donne les clés et fichez-moi la paix. C'est un peu ça. Je trouve qu'il y a un aspect défensif assez fort.
Donc contrairement à tout ce qu'on a dit dans la semaine, retournement de situation incroyable, vous nous dites, Evelyne Grossman, que au fond, la psychanalyse chez Louise Bourgeois, c'est un jeu. Elle se joue et elle joue avec et de la psychanalyse.
Oui, c'est ce que j'aime beaucoup chez Louise Bourgeois. Je trouve qu'elle se moque du monde. C'est quelqu'un vraiment d'extraordinairement ironique, Enfin, si on dit ironique, on a l'impression qu'elle est méchante. Et elle joue avec la méchanceté aussi. Mais
elle est méchante un peu ?
Non, elle n'est pas si méchante que ça. Ou alors au sens où l'enfance peut être proche de la méchanceté. Mais elle a une destructivité enfantine et une façon d'envoyer promener les choses que je trouve très, très réjouissante, finalement. Donc, c'était quoi la question déjà ?
C'était un petit peu ça. La question, c'était est-ce qu'elle se joue de la psychanalyse ?
Est-ce qu'elle se joue de la psychanalyse ? Oui. Elle déconstruit, comment on pourrait dire, la psychanalyse. Elle en prend des bouts, des morceaux, et puis elle fabrique autre chose. Voilà. C'est ce que je crois, fondamentalement.
Et ces bouts, ces morceaux qu'elle prend, ce sont finalement les grands mythes de la psychanalyse, le complexe d'Œdipe, le rapport au père.
Oui, les stéréotypes de la psychanalyse, ce qui est devenu pour tout un chacun une espèce de vulgate psychanalytique, donc les stéréotypes qu'elle prend comme des morceaux de bois, de fer, comme les choses qu'elle récupère. C'est quelqu'un qui récupère, Louise Bourgeois, on le sait bien. Elle a un côté bricoleur. Elle prend ses matériaux. Je crois que je dis à un moment exactement comme les peintres de la Renaissance travaillaient sur des figures imposées, nativité, les icônes, etc. Donc, elle travaille sur les figures imposées de notre modernité, ou du moins les débris, les débris de la psychanalyse telle qu'elle l'a transférée dans le grand public.
Donc, en prenant au sérieux, sans prendre au sérieux.
Voilà. Oui, comme un jeu, absolument. Et elle prend au sérieux sans prendre au sérieux. Alors, elle prétend qu'elle prend ça très au sérieux. D'abord, il faut toujours rappeler, je trouve, qu'elle connaît ça très bien. Elle a lu. C'est aussi une intellectuelle pour moi, Louise Bourgeois. Ça complète ce que disait Tiphaine Samoyeau, que je trouve très juste. Mais elle est aussi, je crois, une intellectuelle qui a lu des œuvres difficiles. Qui a lu Mélanie Klein, qui est quand même pas rien à lire. Qui a lu Winnicott, qui a lu Freud, qui a lu plein de choses. Donc, elle connaît ça par cœur. Donc, elle s'amuse à nous le resservir, vous voyez, y compris sur le cannibalisme vis-à-vis du père.
Ah bah,
le repas
retournons-y
totémique.
Au cannibalisme.
La sculpture Destruction du père traite de la peur ordinaire, la plus banale et réelle, la peur physique, celle que je ressens encore aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on vainc la peur, dont on l'exorcise, dont on en a honte et finalement, la peur d'avoir peur, c'est ça le sujet. Je ne suis pas une spécialiste, mais je sais ce qu'est la peur. Je sais ce qu'elle provoque. La peur la plus banale. Qu'est-ce qu'on fait contre elle? Est-ce qu'on prend la fuite? La liste de nos réactions est longue, bien longue. La façon dont les gens immatures peuvent la combattre. Ils ne s'en sortent pas vraiment vainqueurs, mais ils ont le sentiment qu'ils la font disparaître. C'est en tombant amoureux, par exemple. D'accord, on se leurre soi-même. On fait semblant de croire qu'on aime pour ne pas ressentir le pincement de la peur. On tombe amoureux de quelqu'un qui nous fait peur, et comme ça, on court-circuite la peur. On ne sent plus la peur. Prenons l'exemple du serpent et de l'oiseau. L'oiseau est fasciné. Non, c'est exactement pareil. Il est hypnotisé. Il ne souffre pas. Il n'a pas peur. En fait, il est saisi. Et le serpent n'en fait qu'une bouchée. Et voilà. Je pense toujours par image. C'est mon problème. Mais la différence avec l'amour réel, c'est que ça ne relève pas de la sexualité. Il n'y a pas de désir réel. Mais on ne peut pas aimer tout le monde pour éloigner la peur. Ça prendrait trop de temps et ce serait improductif. On ne grandirait jamais. Bien. Le but de Destruction du père, c'est d'exorciser la peur. Après l'avoir exposée, le voilà, je me suis senti quelqu'un d'autre. Bon. Je n'aime pas utiliser le mot thérapeutique, mais un exorcisme, c'est une entreprise thérapeutique. C'est la catharsis qui est à l'origine de cette pièce. J'étais terrorisée parce qu'à la table familiale, mon père n'arrêtait pas une seconde de parler, de se vanter, de se montrer à son avantage. Et plus il se vantait, plus nous nous sentions insignifiants. Soudain, il y a eu un moment de tension effroyable. Nous nous sommes jetés sur lui, mon frère, ma sœur, ma mère. Tous les quatre, nous l'avons empoigné et traîné sur la table. Nous l'avons écartelé, déchirant ses bras, ses jambes. Nous l'avons démembré, vous voyez. Et nous l'avons si bien déchiqueté que nous l'avons mangé. Fini. C'est un fantasme.
Je ne sais pas si on a bien en tête encore à quoi ressemble cette sculpture Destruction du père. On a l'impression de l'intérieur d'une bouche géante avec des dents, une espèce de grotte primitive dans une lumière rouge où surgissent des rondeurs de plâtre et de latex en forme soit de sein, soit de nuage, soit de phallus, comme on voudra. Vous nous dites un petit peu en substance, Evelyne Grossman, il y a un côté un peu mystificateur dans ce que Louise Bourgeois récupère du discours psychanalytique. Je pense que c'est un petit peu ça que vous nous dites. Est-ce que vous êtes touché quand même par cette œuvre Destruction du Père, même sans reprendre à votre compte le discours qui va avec?
Naturellement qu'on est touché par cette œuvre, justement parce qu'elle a de non personnel. Je veux dire, la petite histoire de Louise Bourgeois, c'est pas spécialement intéressant. Si ça nous touche à ce point, c'est parce que ça remue en nous des fantasmes sans doute extrêmement destructeurs, profonds, archaïques. Elle touche là à des choses très archaïques. Et vous avez raison de le souligner, c'est le père, mais il y a des saints. Quelque chose d'extraordinairement bisexué, comme toujours chez elle. Ces choses-là sont compliquées. Il n'y a pas d'un côté les hommes et de l'autre les femmes. Il y a de l'archaïque non encore défini, ou peut-être déjà détruit. Et on n'a plus que des fragments de père, de mère, et des fragments de Freud aussi bien. Je veux dire, c'est une mystification, mais c'est aussi une destruction méthodique du discours psychanalytique. Masculin et féminin, aussi bien Freud que Mélanie Klein. Puisqu'elle nous sert sans arrêt cette idée « je détruis mais je répare », bon, dont on sait bien que c'est au fondement même de la psychanalyse Kleinian. Elle a lu ça, elle connaît. Mm-hmm. Alors, la thérapeutique, elle sait bien que c'est plus compliqué que ça, probablement, qu'il faut sans arrêt recommencer. Mais vous avez raison de dire « ça nous touche ». Ça nous touche parce qu'on a tous traversé ça, ces angoisses archaïques. Mm-hmm. Ce ne sont pas seulement les angoisses de Louise Bourgeois.
Donc à sa décharge, on pourrait imaginer que finalement c'est le monde de l'art, le monde journalistique aussi qui a besoin d'avoir des discours qui accompagnent des œuvres. Au fond, les œuvres de Louise Bourgeois, elles parlent pour elles-mêmes.
D'un autre côté, comme on disait tout à l'heure, elle fournit un discours. Et on sait bien qu'on a besoin d'un discours pour apprécier une œuvre d'art. Sinon, c'est complètement confusionnel et angoissant pour le coup. Et on ne sait pas quoi en faire. Donc elle nous livre un discours, mais ce n'est pas qu'on en ait forcément besoin. On s'en sert, mais on n'est pas obligé d'y adhérer. Elle nous apprend justement à aménager une certaine distance, proximité, distance, destruction, construction. Elle joue constamment à ça. Donc c'est une référence, mais on en fait ce qu'on en veut.
Alors il y a un certain nombre quand même de phrases qu'elle a dites, qui sont des phrases très psychanalytiques. Elle se disait une femme-enfant. Où est-ce que vous le voyez ça, la femme-enfant, chez Louise Bourgeois?
Mais c'est un jeu de rôle. Moi, c'est pour ça que dans mon livre, j'avais parlé de Marguerite Duras et de Louise Bourgeois. Je trouve qu'elles ont, quelque chose qui se ressemble.
Et de Roland Barthes.
Oui, mais non. Voilà. Il y avait deux hommes, deux femmes, quand même. Mais Duras, dans ce côté provocateur, dans ce côté « je joue les idiotes ». Or, je ne suis pas du tout idiote, ça c'est Duras. Et elle, c'est « je suis une femme enfant, ne me prenez pas trop au sérieux, regardez, je casse mes jouets, je les répare comme je peux ». Femme enfant, ce n'est pas si psychanalytique que ça. C'est une façon de dévaloriser les petites filles et de dire « regardez, elle est toujours aussi femme enfant, elle n'a pas grandi, c'est tellement charmant, touchant ». Alors, et donc c'est encore un stéréotype.
Plus psychanalytique peut-être, quand elle disait « En épousant Robert Goldwater, j'ai épousé ma mère ».
Oui.
C'est presque un slogan.
Absolument. Oui, mais c'est plein de slogans. Vous avez raison, c'est le terme exact. Les slogans, les stéréotypes, voilà, prenez ça et débrouillez-vous. Oui.
« Je suis une mauvaise mère ».
Oui, « Je suis une mauvaise mère », oui.
Et puis, le déclin des pères, le pouvoir phallique, le triomphe du corps maternel. Donc ça, c'est aussi un triptyque qu'elle a beaucoup mis en avant.
Oui, ça c'est Winnicott, Mélanie Klein, oui.
On pourrait dire que le masochisme est une des caractéristiques de mon travail. Qu'il s'agisse là d'une attitude commune aux femmes, je ne le sais pas. Le masochisme s'exprimait au moment de mes femmes maison, dans le sentiment que je n'avais pas le droit d'avoir des enfants, que je n'avais pas le droit d'être une artiste. C'était un privilège. Et si on considère l'art comme un privilège par définition, on a l'impression qu'on ne le mérite pas. On se refuse perpétuellement quelque chose, par la négation de son sexe, par le refus de s'outiller comme il convient quand on est un artiste, parce qu'être un sculpteur, ça coûte de l'argent. Et si on considère l'art comme un privilège, au lieu d'y voir quelque chose d'utile à la société, on épargne et on souffre pour son art, pour ce qu'on aime. On renonce à soi-même pour la cause de l'art. J'avais l'impression que je devais économiser l'argent de mon mari plutôt que de faire de la sculpture qui coûte cher. Alors, les matériaux que j'utilisais à mes débuts, c'était des rebuts. On a habillé ça d'une signification poétique en donnant aux rebuts une valeur spécifique. Ce n'est pas faux, mais on voit que certains artistes, par exemple dans les quartiers noirs, utilisent des rebuts pour leur sculpture parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter du bois.
Extrait des carnets de Louise Bourgeois, lu par Valérie Lang. Alors, qu'est-ce qui parle le plus dans cet archive, selon vous, Evelyne Grossman? C'est l'aspect psychanalytique, bon, on en a déjà pas mal parlé. L'aspect féministe, l'aspect social, est-ce que finalement on est plus dans le vrai dans ces deux derniers termes, féministe et social, en parlant de l'œuvre de Louise Bourgeois et de sa trajectoire?
Féministe sans doute, mais ce serait encore une façon de l'enfermer. Moi, je la trouve toujours un peu caricaturale, les discours des féministes américaines sur Louise Bourgeois. Même
quoi,
si ça lui a permis d'être célèbre, c'est vrai. Elle a été récupérée, elle a ouvert la porte à cette récupération.
Et pourquoi c'est caricatural?
Parce que ça l'enferme dans une identité, dans une définition. Elle est bien plus complexe que cela. Bien sûr qu'elle est féministe. Bien sûr qu'on l'est, obligatoirement, quand on est une femme. Mais...
Pas sûr.
On l'est toujours d'une certaine façon. Enfin bon, ou on devrait l'être. Mais non, ce sont des discours ce sont des discours réducteurs, les discours féministes, de même les discours sociaux. Elle n'a pas un tel engagement social. Non. Moi, je trouve vraiment ce qui est fondamental chez elle, c'est le travail sur les débris, sur la mise en équilibre, justement, non psychologique, non psychanalytique. Est-ce que ça tient debout ou pas? Comment on fait pour tenir debout? Ça, c'est la question de Louise Bourgeois. C'est la question de l'équilibre. Ce n'est pas spécifiquement une question féminine. Voilà. Comment est-ce que, malgré tout, on construit quelque chose qui est de l'ordre de la sculpture ou de l'ordre de l'écriture et qui nous permet provisoirement de tenir debout en étant toujours sur le point de s'effondrer? Alors, et quand même, ça tient. Et on la voit hein, dans un certain nombre de films. Elle travaille beaucoup avec ses mains, en effet, et elle regarde, est-ce que ça va tenir? Et si ça tient pas, on recommence. Il y a quelque chose, alors là, pour le coup, en effet, de très méthodique, de très manuel, et qui est sans doute chez elle beaucoup plus important que tout ce qu'on peut ajouter d'un point de vue psychanalytique.
Il y a aussi l'idée de s'occuper les mains, hein, comme disait
Tiffaine Samoyo. Il y a l'idée de s'occuper d'une main. Il y a l'idée
pour ne pas penser à autre chose qu'au travail qu'on est en train de faire. Il y a peut-être quelque chose aussi simple que ça.
C'est ça, mais il y a aussi, qu'est-ce que c'est qu'un corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps? Un corps d'homme ou un corps de femme? Qu'est-ce que c'est que l'hystérie? Qu'est-ce que c'est que les identifications compliquées? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis une femme? Et on joue. Et comment on met ça en équilibre?
Il y a des hommes, des corps d'hommes et des corps de femmes? Ou finalement, il y a juste un corps?
Il y a
Louise
l'équilibre
Bourgeois,
entre les deux chez elle. Il me semble que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la bouche. Il y a les deux. Il y a les deux. Et comment ça tient en équilibre? C'est ça qu'elle cherche. L'équilibre entre le masculin et le féminin, peut-être. C'est pour ça que le discours féministe est trop simple.
Il y a une obsession de la coupure, vous parlez des corps, on a l'impression que c'est quelqu'un qui dissèque beaucoup, qui ouvre les peaux,
qui déchire
et qui met les chairs à nu.
Oui, oui. Alors c'est peut-être sadique, c'est aussi une curiosité enfantine d'ailleurs, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Comment ça se démonte? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur?
Un côté garagiste, un côté mécanicien.
Un côté garagiste, un côté chirurgien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des corps? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Et comment ça tient d'une certaine façon?
Le danger par l'eau, le danger de mourir par l'eau. Alors, il y a par exemple une œuvre qui s'appelle The Vision from the Bottom of the Well. Dans le Connecticut, il n'y avait pas d'eau excepté l'eau du puits. Par conséquent, nous étions complètement dépendants de la table d'eau et des moments de sécheresse. Il n'y avait pas d'eau. Il y a une question d'une peur intense de mourir dans les inondations. Est-ce que ça venait en 1910 quand il y a eu les inondations à Paris? Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais cette constante préoccupation avec les rivières, par exemple avec la Bièvre, et puis après il y avait la Creuse, et puis après il y avait la Seine, et puis après il y avait le Hudson, et toutes ces habitations sur les rivières. Et en même temps, et en même temps la peur de l'eau. Par conséquent, si on parle des quatre éléments, eh bien mon élément, c'est l'eau.
C'est l'eau.
Pour le bien et pour le mal.
C'est peut-être le plus intéressant finalement ce qu'elle vient de dire là sur l'eau, quand elle dit « je ne sais pas d'où ça vient ». Alors là, on n'a pas d'explication et peut-être qu'elle-même n'a pas compris. Bon, on sait qu'elle a tenté de se suicider en se jetant dans la Bièvre, mais là encore c'est un peu plat comme explication. Mais le rapport à l'eau quand même, c'est assez beau ce qu'elle dit, je trouve en tous les cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui, c'est d'autant plus beau qu'après tout, il n'y a pas tellement... Si, il y a de l'eau dans son œuvre, il y a du goutte à goutte.
Il y a des gouttes, oui.
Oui, il y a des parfums, il y a des, justement une espèce de façon de domestiquer l'eau, de la faire couler très lentement pour qu'on ne puisse pas être submergé. Oui, elle parle de cette peur de la noyade, de la submersion, de cette tentative de suicide qu'elle avait faite. Bon, on peut broder beaucoup de choses là-dessus. Mais l'eau, elle est là aussi. Et d'ailleurs, elle met toujours les flacons d'eau de parfum en équilibre. Est-ce que ça va se répandre ou est-ce que ça tient à peu près ?
Donc ces flacons, on peut les retrouver dans les fameuses cellules.
Oui.
Et ces cellules, il faut en dire un petit mot, parce que c'est un dispositif très particulier, puisqu'on regarde de l'extérieur, on ne peut pas tout embrasser par le regard ensemble, donc on a un regard un peu de voyeur comme ça, depuis l'extérieur vers l'intérieur, l'intimité qui nous est montrée. Comment vous les voyez ces cellules, Evelyne Grossman ?
Là encore, il y a toujours l'impossibilité de voir qu'elle nous inflige. Elle montre, mais elle ne montre pas. On a la même chose dans pas mal de ses œuvres qui jouent sur les distorsions d'échelle. C'est trop petit, trop grand, on a du mal à voir. Ça procure une sensation de malaise, voire d'angoisse chez le spectateur.
Ce sont des angles morts.
Les angles morts, oui. Mmh. Les angles morts. Et bien entendu qu'elle veut nous faire éprouver là quelque chose d'une angoisse devant ce qu'on n'arrive pas à voir, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est sûr.
Et vous comprenez quelque chose une fois que vous sortez d'une exposition de Louise Bourgeois ?
Non, mais je crois qu'il ne s'agit pas de comprendre quelque chose. Il faut voir si, comme elle dit, on a trouvé un certain équilibre. Voilà. Est-ce qu'on s'est laissé submerger par cette œuvre ou est-ce qu'on a pu jouer avec elle ? Et si on a pu jouer, c'est certainement gagné pour elle.
Merci beaucoup, Evelyne Grossman. Pour aller plus loin, on peut lire de vous laisser éloge de l'hypersensible aux éditions de Minuit, dans lequel vous parlez aussi de Deleuze, de Barthes et de Duras. En plus donc de Louise Bourgeois, je renvoie également au livre collectif Louise Bourgeois Three Horizontals aux éditions Ofris, Institut National d'Histoire de l'Art. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Dali Yaha. La semaine prochaine, un prix Nobel de littérature disséqué par nos soins, mais pas à la manière sadique de Louise Bourgeois, vous l'entendrez. Nous parlerons de Jean-Marie Gustave Le Clésio. Mais avant cela, vous avez rendez-vous demain avec La Compagnie des poètes, présentée comme chaque semaine par Manu Farine. Dans un instant, on retrouve les sciences sur France Culture.